France Inter. Le 18-20. Claire Servageant.
Au téléphone sonne ce soir, comment mieux prévenir et mieux diagnostiquer le cancer du sein ? Question posée à l'occasion d'Octobre Rose. Car le cancer du sein reste le cancer le plus répandu chez les femmes, avec près de 59 000 nouveaux cas l'an dernier et plus de 12 000 décès. Or, on sait qu'un diagnostic précoce améliore les chances de guérison. 5 ans après, 99 femmes sur 100 sont toujours en vie si le cancer a été découvert à un stade précoce. Autant dire qu'il est essentiel de diagnostiquer la maladie le plus tôt possible. On verra dans cette émission comment se faire dépister, dans quel cadre, selon son âge et même son profil personnel. Il existe en effet dans notre pays un dépistage organisé pour les femmes de 50 à 74 ans. Pourtant, seule la moitié d'entre elles y participent. Pour quelle raison ? C'est ce qu'on tentera de comprendre. On parlera aussi prévention, car si l'on en croit les spécialistes, nombre de cancers du sein seraient évitables. L'Institut national du cancer chiffre même à 20 000 le nombre de cas évitables chaque année, en agissant sur la consommation d'alcool, de tabac, sur l'alimentation, le surpoids et l'activité physique. On s'y arrêtera et on s'interrogera aussi sur les causes de la maladie. Vous l'avez compris, ce soir, il ne s'agit pas tant de parler des traitements que de ce qui se passe en amont. À nos côtés, pour répondre à toutes vos questions ce soir, trois invités. Professeure Catherine Usan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, chef du service de chirurgie et cancérologie gynécologique et mammaire à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Professeure Isabelle Thomassin-Nagara, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Radiologue, responsable de l'unité de sénologie de l'hôpital Tenon à Paris, vice-présidente de la Société d'imagerie de la femme. Et Laure Guérou-Acolas, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Fondatrice de l'association Patients en Réseau, c'est bien ça ?
Tout à fait.
Et de l'application Mon Réseau Cancer du Sein. Je crois que vous avez été vous-même confronté à la maladie. Trois invités pour répondre à toutes vos questions. On attend bien sûr vos appels au standard de France Inter.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Et tout de suite, un premier appel qui nous vient de Limoges, celui d'Hélène. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Bienvenue à vous. On vous écoute.
Merci. Alors moi, ma question prend un petit peu le contre-pied de ce que vous avez pu présenter. Quand on se renseigne un petit peu, qu'on cherche, qu'on va sur des blogs plutôt sérieux quand même, on se rend compte que apparemment, malgré un dépistage massif, il n'y a pas de baisse du nombre de décès liés au cancer du sein. Et du coup, cela questionne un petit peu sur quels sont les cancers qui sont détectés ou pas par ces dépistages systématiques. Est-ce qu'il ne s'agirait pas, par exemple, de cancers qui n'auraient pas évolué, qui n'auraient pas suscité de maladies graves, en fait ? Et est-ce qu'on ne fait pas subir des chimiothérapies, des ablations mammaires pour des cancers qui, en fait, n'étaient pas dangereux ?
Est-ce que je peux vous demander, Hélène, pourquoi vous posez cette question ? Est-ce que vous avez des raisons particulières de vous interroger ?
Alors, une tendance naturelle à ne pas me laisser emporter et à me questionner quand on veut m'amener à faire un truc de façon un peu systématisée et non justifiée. Voilà. Et les personnes qu'on voit qui portent ces arguments-là ne sont pas des hurluberlus et des gens dénués de sens. Voilà.
Vous-même, pardon Hélène de vous poser cette question, vous avez 50 ans ou pas ? Est-ce que vous êtes concernée par ce dépistage systématique ?
Non, pas encore concernée.
Mais quand même, vous vous posez des questions. Merci.
Je me pose des questions. Oui.
Merci beaucoup Hélène pour cette entrée en matière. Alors, on va commencer par parler de ce dépistage organisé puisqu'il existe dans notre pays. Catherine Usan, peut-être pour commencer ? Alors, l'utilité de ce dépistage, on rappelle, de 50 à 74 ans.
Tout à fait. Alors, le dépistage, pour que ça marche, il faut qu'il soit fait. Donc, c'est une très bonne question que nous pose Hélène. Le dépistage va, et on a des études bien faites pour le faire, sauver 20% des femmes, mais sous couvert qu'elles aillent au dépistage. Donc, lorsqu'on est à des taux très bas de dépistage, et malheureusement, vous l'avez bien rappelé, moins de 50% des femmes qui sont concernées par ce dépistage systématique de 50 à 74 ans vont au dépistage, eh bien, on va diminuer l'impact qu'on peut avoir avec ces démarches. Donc, en effet, Hélène a tout à fait raison de le rappeler, il y a eu des études qui s'interrogeaient sur les bénéfices du dépistage, et d'autres études ont très bien montré que lorsqu'on va au dépistage, lorsqu'il est fait et surtout lorsqu'il est bien fait, et en France, on a la chance qu'il soit bien fait puisque il y a eu beaucoup d'investissements pour que ce soit bien fait, c'est-à-dire avec une double lecture, avec des appels systématiques, et surtout, il y a quelque chose de formidable dans notre système, c'est que c'est un système égalitaire et que quels que soient vos revenus, vous allez toutes pouvoir bénéficier du dépistage et de pouvoir bénéficier de ces avantages, et sous couvert de ça, on va arriver non seulement à sauver des vies, mais aussi, et c'est important, à découvrir des cancers plus petits, donc faire moins de mastectomie et moins de chimiothérapie, parce qu'elle l'a dit, la chimiothérapie, la mastectomie, c'est jamais facile pour les patientes. Et un des objectifs, c'est sauver des vies, mais aussi diminuer l'impact du cancer lorsqu'il est découvert plus avancé, c'est-à-dire à un stade 2, et le dépistage s'engage à découvrir des cancers plus petits.
Alors on va peut-être s'arrêter sur ce dépistage, expliquer en quoi il consiste. Isabelle Thomas-Sanagara, vous qui êtes radiologue, expliquez-nous ce que c'est que ce dépistage. C'est la fameuse mammographie, c'est ça ?
Exactement. Donc le dépistage du cancer du sein en France, c'est une convocation donc systématique de toutes les patientes entre 50 et 74 ans pour venir faire un examen clinique, et c'est ça la grande chance du dépistage en France, contrairement à d'autres pays, associé à un examen d'imagerie qu'on appelle la mammographie, qui est un examen avec des rayons X qui fait 4 incidences de mammographie et qui a démontré clairement sur différentes études que dans cette tranche d'âge, on avait un bénéfice avec une réduction importante de la mortalité et significative. Et c'est pour ça qu'en France, on a choisi cette tranche d'âge pour convoquer les patientes. On sait que avant, on a en fait besoin d'études complémentaires et on a ce dépistage se fait tous les 2 ans entre 50 et 74 ans.
Alors cette mammographie, qui va la lire ? Comment ça s'est organisé ? Est-ce qu'il y a une double lecture ou pas ? Comment ça se passe ?
Donc le dépistage en France, la patiente va donc dans un cabinet de radiologie. Elle est libre de choisir le cabinet de radiologie. Il faut que le cabinet de radiologie soit en fait validé pour le dépistage et c'est ça qu'a apporté la campagne de dépistage organisée, c'est-à-dire des critères de qualité de réalisation de la mammographie. Les radiologues en fait sont très conscients et sont très investis en fait dans le fait d'avoir des bonnes images avec une dose d'irradiation la plus faible possible, et c'est ce qu'a permis en fait le dépistage organisé du cancer du sein. Ensuite, une fois que cette mammographie est faite, elle est bien sûr lue en direct par un radiologue. Il y a eu récemment en fait un nouveau décret qui permet en fait à la patiente de partir avec un compte-rendu provisoire de sa mammographie si elle a par exemple un rendez-vous avec son gynécologue. Et ensuite, cette mammographie va, lorsqu'elle est normale, être envoyée dans un centre de deuxième lecture, et c'est aussi un des avantages du dépistage organisé, c'est de permettre une lecture par un expert qui lit en fait beaucoup plus de mammographies, qui donc permet de détecter des cancers supplémentaires et donc finalement d'améliorer la capacité en fait que l'on a de détecter un tout petit cancer donc subtil sur ces mammographies.
Et peut-être éviter aussi du coup un diagnostic qui n'aurait pas lieu d'être, ce fameux surdiagnostic qui peut faire peur à certaines.
Alors le surdiagnostic en fait, c'est, pour bien comprendre, je pense que c'est important que les gens comprennent bien, le surdiagnostic c'est le fait qu'on découvre un cancer qui n'aurait pas évolué. C'est très important en fait, le temps que j'emploie, c'est du conditionnel, et ça explique toute la problématique qu'on peut avoir en fait dans les journaux qui ont pu être publiés. C'est-à-dire qu'en fait c'est une probabilité. On n'est jamais sûr qu'un cancer ne va pas évoluer, et c'est toujours difficile, et donc tout ce qui a été publié sur le surdiagnostic, c'est à base de modèles statistiques qui sont critiquables, et donc il y a eu des pour, des contre. En tout cas ce qu'on sait, c'est qu'un cancer qui ne va pas évoluer, personne n'est capable de dire s'il ne va pas évoluer. Et c'est ça toute la problématique.
Alors pour prolonger sur cette histoire de dépistage systématique proposé à toutes les femmes, Laure Guérou-Acolas, vous qui faites partie d'un réseau de patientes, à votre avis, pourquoi est-ce que la moitié des femmes ne répondent pas à l'invitation qui leur est faite ?
Je pense qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, je pense qu'il y a un certain nombre de femmes qui vont faire des contrôles avant et en ville, qui ne sont pas forcément dans ce dépistage.
Elles font leur propre dépistage.
C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup de femmes qui, au contraire, alertées par toutes ces campagnes d'information, se disent « mais moi, je ne veux surtout pas passer à côté » et qui peut-être vont anticiper cette demande d'examen en ville. Et je pense que ce serait justement intéressant de replacer l'intérêt de la démarche collective, notamment pour la qualité du dépistage et aussi la capacité à avoir des chiffres. On critique les choses, mais si on n'a pas les bons chiffres, on ne peut pas avoir une bonne vision. Donc il y a certainement, parmi les 50% qui devraient y aller, des gens qui font en fait des dépistages en ville. Et puis après ça, il y a peut-être la peur de l'examen, la peur d'avoir un cancer radio-induit. Donc en fait là, sur ces peurs-là, il va falloir expliquer aussi les avancées qui ont pu être faites, notamment dans le type de matériel, pour l'accompagnement en fait des manipulatrices radio qui vous guident et au final qui vont faire en sorte que vous soyez quand même, c'est pas confortable mais c'est pas non plus si douloureux que ça, et surtout il y a des progrès à la fois dans le matériel et il y a besoin d'informer les gens sur les risques et la proportion finalement de ce que ça représente, et notamment tout ce qui est radio induit, franchement, je pense que là, notre radiologue peut nous donner quelques éclairages précis.
Oui, bien sûr, ça fait peur à tout le monde.
C'est
normal, en fait. Hein. C'est un examen qui utilise des rayonnements ionisants, des rayonnements X, et donc il y a toujours un risque qui existe, mais ce risque est extrêmement faible. Je pense que c'est important d'avoir une notion de comparaison. Donc, par exemple, on sait que quand on fait des mammographies durant toute la durée durant laquelle c'est recommandé, toute la dose d'irradiation cumulée correspond à un seul scanner abdominopelvien avec injection. On sait qu'il y a eu des études qui l'ont montré, notamment c'était en Angleterre, et on sait que le risque, en fait, quand on fait une mammographie, il est de 1 sur 50 000. On sait que c'est extrêmement faible. Alors, c'est le cas, en fait, dans la population générale. Il faut mettre un petit peu à part des populations très particulières qui sont les patientes à très haut risque avec des mutations génétiques où on sait que là, il y a d'autres éléments qui peuvent un petit peu, qui modifient clairement le risque des mammographies. C'est pour ça que chez ces patientes-là, il y a un dépistage spécifique par IRM et on réduit vraiment au maximum les mammographies. Mais dans la population générale, ce risque et le rapport bénéfice-risque, en tout cas, est indiscutable en faveur du dépistage.
Alors, on parlera évidemment du dépistage personnalisé en fonction des cas, mais une dernière question sur ce dépistage systématique, Catherine Usan. Est-ce qu'il est perfectible? Est-ce qu'il y aurait des choses simples peut-être à mettre en place pour que ce soit perfectible?
Alors, on peut toujours faire mieux. Si déjà les patientes répondaient à cette
proposition, c'est ça le message que vous voulez faire passer,
voilà,
ce soir.
C'est ce papier que vous recevez et où parfois, ben c'est normal, c'est humain, on n'a pas envie, c'est un vendredi soir, on le reçoit, on a plutôt envie de faire autre chose et il va à la poubelle. Il faut imaginer toute l'infrastructure qui a été mise en place pour que ça arrive. Et puis surtout, vous allez avoir des rappels. Maintenant, en France, en plus du cancer du sein, vous allez le recevoir pour le cancer du côlon, pour d'autres dépistages. Donc, je pense qu'on s'est doté d'une infrastructure et que c'est dommage de ne pas en profiter parce qu'encore une fois, c'est pour tout le monde. Et il ne faut pas qu'il y ait que les patientes qui se sentent concernées qui puissent bénéficier de ce dépistage.
On repart au standard de France Inter. Pauline est dans le Jura et elle est au bout du fil. Bonsoir Pauline.
Oui, bonsoir.
On vous écoute Pauline.
Oui, j'avais une question pour vos intervenants. Je voulais savoir en fait ce qu'ils pensaient de l'initiative Cancer Rose qui est portée par des médecins qui se promeuvent comme indépendants, ainsi qu'une toxicologue, comme l'annonce leur site internet. Et Cancer Rose, en fait, défend la thèse que des campagnes de dépistage automatique sont inutiles, voire néfastes, car elles entraînent des surdépistages dont vous venez de parler, de tumeurs qui n'auraient pas évolué de manière maligne, et par conséquent des surtraitements, au mieux, et sans plus-value, et qui sont coûteux pour la société, et au pire, qui sont néfastes à des femmes qui n'auraient pas eu d'effet délétère si on avait laissé les choses évoluer.
Merci Pauline. Bon, on revient un petit peu à ce qu'on vient de dire, Catherine Usan.
Je pense qu'il faut pas éviter ces questions-là. Moi, franchement, c'est pas un débat qui me pose problème. J'aime bien qu'on me pose cette question parce qu'on a des arguments forts pour y répondre. D'accord? Les arguments forts, c'est une patiente qui se présente à vous, qui a une tumeur de 5 cm et à qui je vais devoir, si on ne peut pas faire une chimiothérapie première, ce sera soit chimiothérapie première, soit mastectomie. Et cette patiente-là, la première chose qu'elle va me dire, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu l'éviter? Est-ce qu'on n'aurait pas eu un moyen de faire mieux? Et ce moyen, on l'a en France. Donc, c'est intéressant parce qu'on se pose vraiment des questions, des problèmes de pays riches, de pays, de gens, je vais pas dire d'enfants gâtés, mais on n'en est pas loin. Donc, il ne faut pas éviter la question du surdiagnostic. Isabelle le disait tout à l'heure, le surdiagnostic, c'est quoi? C'est un cancer qu'on découvre petit et on se pose la question si sur le temps, peut-être qu'il n'aurait pas évolué. Alors, éventuellement, si on parle d'une patiente qui a 85 ans, et à qui vous allez découvrir un cancer qui fait 5 mm. Eh bien, cette patiente, elle n'est pas dans les 50-74 ans. On ne va pas aller lui faire un dépistage systématique parce qu'on s'est justement dit que peut-être que ce cancer, pour qu'il impacte cette femme, eh bien, en fait, ce qui compte, c'est de savoir si le cancer va impacter avant le décès de la patiente. Donc, je ne vais pas aller la dépister, ou en tout cas, si je la dépiste, c'est par la palpation et non pas par la mammographie. Par contre, pour les femmes qui sont dans cette tranche d'âge, l'espérance de vie, et vous savez que l'espérance de vie n'a cessé d'augmenter chez les femmes, et si le nombre de cancers augmente, et on peut s'en réjouir, c'est parce que l'espérance de vie augmentant, il y a plus de femmes qui vont être touchées par le cancer. Est-ce qu'on ne pourrait pas offrir à ces patientes la chance de ne pas avoir une mastectomie ou une chimiothérapie, parce que quand même la majorité des cancers évoluent, et parce que certains se posent la question et se posent la question de savoir si on ne cherche pas à leur nuire, c'est dommage qu'ils véhiculent, je ne dis pas des fausses nouvelles, mais en tout cas des messages qu'il est important pour nous de pouvoir discuter et de dire, beaucoup de femmes peuvent en bénéficier, laissez-leur le choix. Ne leur dites pas, vous allez vers un traitement excessif, vous allez vers des traitements qui ne servent à rien, parce qu'encore une fois, on sauve des femmes. Et il y a des femmes autour de cette table qui ont vécu ce système. On a été accueillis par l'une de vos collaboratrices qui m'a parlé de son cancer du sein. Donc, tous les jours, des femmes ont un cancer du sein. Tous les jours, elles se demandent est-ce qu'on n'aurait pas pu faire mieux. Et l'un des moyens de se faire mieux, c'est ce dépistage.
Alors, Guérou Acola, c'est aussi ça le message. C'est oui. Ne passez pas à côté de ce dépistage si, quelque part, il vous permet de vous sauver la vie, quoi.
Alors déjà, il y a la notion de si on trouve la maladie suffisamment tôt, comme vous l'avez rappelé aussi, on va pouvoir me guérir. Il faut quand même rappeler qu'il y a plus de 12 000 femmes par an qui décèdent de cette maladie. C'est quand même une maladie qui reste très grave. Elle touche beaucoup de monde. Heureusement, on la diagnostique suffisamment tôt pour la plupart d'entre nous. L'enjeu aussi, c'est à vivre, franchement, si on peut avoir ce qu'on appelle un peu la désescalade thérapeutique, c'est-à-dire les plus petits traitements possibles pour prendre en charge cette maladie, ça change tout. De pouvoir avoir un geste chirurgical limité, de pouvoir, par exemple, éviter la chimiothérapie, de pouvoir éventuellement même ne pas avoir de rayons. Bref, en tout cas, ça, c'est adapté en fonction de chacune. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va augmenter le nombre de personnes guéries, mais on va aussi améliorer leur qualité de vie avec des traitements moins lourds. Donc, sincèrement, trouver la maladie le plus tôt possible, c'est un enjeu majeur qu'il faut garder en tête.
Isabelle Thomas-Sanagara, vous qui êtes radiologue, peut-être une question sur celles qui ont peur d'y aller parce qu'elles ont peur d'une mauvaise nouvelle, d'une annonce, etc. Parce que ça existe aussi. J'aimerais savoir comment on annonce les choses quand on est radiologue. Comment ça se passe ? Évident.
Tout à fait. Alors, le radiologue est un médecin, donc il l'annonce également. Mais c'est vrai qu'avant de parler de l'annonce, on sait que la plupart des patientes, il n'y aura pas d'annonce à faire, puisque on sait que lorsque l'on fait un dépistage, on va détecter 7 cancers pour 1000 femmes qui ont été dépistées, et c'est le taux de dépistage que l'on a en fait dans la plupart des pays. Je pense que c'est important de comprendre que les femmes, en fait, quand elles sont accueillies en fait dans le service de radiologie, bien sûr, elles sont anxieuses. Et c'est notre rôle aussi de les rassurer. La grande chance qu'on a en France, comparativement à d'autres pays d'Europe par exemple, c'est que en France, lorsqu'il y a quelque chose, une anomalie qui est détectée, et en France ça arrive dans 7% des cas, on va pouvoir tout de suite faire les examens complémentaires, l'incidence complémentaire, l'échographie, alors que dans d'autres pays d'Europe, on est obligé de rappeler la patiente avec tout ce délai d'angoisse qui est-ce que j'ai quelque chose ? En France, la grande chance des patientes, c'est
une mammographie qui semble anormale, il y a tout de suite une échographie.
Tout de suite, et on a, du coup, ça permet en fait de diminuer finalement énormément le nombre de cas où il faut aller vers une biopsie. Tout de suite, la patiente sait s'il y a besoin de faire quelque chose ou pas. Et ça, je pense que c'est aussi une grande chance qu'ont les patientes en France.
Donc, il y a des patientes qui peuvent être rassurées à ce stade-là.
Exactement.
Déjà.
Et heureusement, la plupart du temps, on rassure les patientes, et c'est ce qu'on fait le plus souvent, heureusement.
Et sinon, juste un mot de la procédure, quand effectivement, même l'échographie montre quelque chose d'anormal, qu'est-ce qui va se passer ?
Alors, le plus souvent, quand l'échographie, on a ce qu'on appelle une classification qui cote en fait en 5 niveaux de risque la mammographie. Et quand on est classé ACR 4 ou 5, on va proposer une biopsie à la patiente ou, dans certains cas, et c'est ce qui se passe à Thenon et à la Pitié-Salpêtrière, on peut tout de suite faire un petit prélèvement, une cytoponction. On a une analyse en direct de ce qui se passe. Et là encore, il y a ce qu'on appelle les structures de prise en charge en un jour. Donc les patientes arrivent. On peut, lorsque l'on détecte quelque chose, faire le prélèvement. L'anatomopathologiste et cytologiste sont à côté de nous et on a le résultat immédiatement. Donc là aussi, c'est toujours dans la même optique, c'est-à-dire de pouvoir rassurer le plus vite possible le plus grand nombre de patientes.
Françoise, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors vous êtes à Grenoble et on me dit que vous avez 76 ans, c'est bien ça ?
Absolument.
Alors dites-nous tout.
Eh bien écoutez, j'ai passé les examens très régulièrement et ma question c'est pourquoi les examens s'arrêtent à 74 ans ? Est-ce que le risque de cancer n'existe plus passé cet âge ?
Bonne question, Françoise.
Excellente question.
Merci beaucoup, Catherine Usan, à vous répondre.
C'est une excellente question, Françoise. Et non, ça ne s'arrête pas. Et en fait, l'idée, c'est qu'on va... La meilleure cible, c'est 50-74 ans. À partir de 74 ans, on va juger chaque année entre votre espérance de vie, et elle est probablement très longue, et probablement pour toutes les patientes qui sont en forme, on va continuer le dépistage. Pour ne pas, encore une fois, pour être dans la logique, et donc... on va juger sur l'activité, comment les patientes se sentent, et si elles se sentent bien, et ben on va continuer le dépistage. Alors le dépistage, c'est pas que la mammo-échographie, c'est aussi la palpation des seins. Et quel que soit l'âge, vous allez chaque année aller voir votre médecin. Alors c'est pas parce que vous voyez votre gynécologue une fois par an, c'est très bien, mais si vous n'avez pas de gynécologue, votre généraliste doit pouvoir vous palper les seins, et s'il ne le fait pas, eh bien vous verrez votre gynécologue. Et la palpation des seins est un élément essentiel du dépistage, parce que il faut savoir qu'il y a autant de cancers dans la tranche 60-70 ans que 70-80 ans. Mais on va souvent pouvoir mieux palper ces cancers et surtout, vous allez pouvoir détecter un symptôme. Que ce soit une boule dans le sein, que ce soit une déformation du sein, que ce soit une rétraction du mamelon, que ce soit une rougeur. Et tous ces éléments-là doivent vous amener à consulter. Donc, en fait, il n'y a pas un couperet qui ferait qu'à 74 ans, vous ne nous intéressez plus. On va continuer à dépister, mais aussi par d'autres moyens. Et l'examen clinique, on a beaucoup parlé de l'imagerie, hein, parce qu'on est sur des lésions qui sont ce qu'on appelle infracliniques, petites, mais l'examen clinique est un élément essentiel et on va pouvoir continuer. Et parce que oui, passé un certain âge, on a aussi des cancers du sein.
Voilà, message, même si on ne reçoit pas la fameuse lettre parce qu'on n'est pas dans la bonne tranche d'âge, on a le droit d'aller voir son médecin. Et on peut... oui, vous souhaitiez dire quelque chose, Laure Guéroua-Colas?
Oui, en fait, je trouve très important aussi de rappeler qu'au-delà de cette tranche d'âge qui est concernée par le dépistage, il y a effectivement tous ces symptômes et le fait que la mammographie systématique est plus ou moins utile en dehors de cette tranche d'âge. Et c'est aussi l'occasion de dire, parce que sur notre réseau Mon Réseau Cancer du sein, il y a beaucoup de femmes plus jeunes qui ont donc découvert leur cancer dans d'autres circonstances. Et je crois que c'est important de rappeler aussi pour les femmes les plus jeunes quels sont les symptômes, qu'est-ce qui doit les alerter et les inciter à consulter puisqu'elles ne sont pas convoquées par le dépistage.
En cas de doute, on demande au médecin. Nathalie est au bout du fil, elle aussi. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir.
Alors qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes allée faire une mammographie, vous n'avez pas du tout aimé l'examen, c'est ça?
J'ai été faire deux mammographies, j'ai essayé deux fois de suite. Et en fait, j'ai trouvé ça très douloureux. Et du coup, vu que je ne fais pas partie d'un groupe particulièrement à risque et que je vois une gynéco tous les ans avec palpation, j'ai décidé de ne plus faire.
Vous étiez quand même contente qu'on vous dise qu'il n'y avait rien, non?
Oui, bien sûr. Évidemment.
C'est quand même pas mal, non?
Oui, tout à fait, mais je...
Mais ça fait mal.
Alors, si c'est douloureux pour tout le monde ou si je suis un cas?
Eh ben, on va poser la question à Isabelle Thomasin-Nagara, qui est radiologue. Alors, ça fait mal ou ça fait pas mal?
Alors, c'est vrai que ça peut faire mal de temps en temps pour certaines patientes. Il y a des moyens quand même de limiter la sensation douloureuse. On sait qu'en fonction du cycle hormonal, les patientes, quand elles viennent en fin de cycle, généralement, les seins sont plus œdémateux, on le sait, et les douleurs sont plus importantes. Donc, on ne recommande pas de faire un dépistage en fonction du cycle, mais pour les patientes qui ont des douleurs lors de l'action de la mammographie, c'est vrai que venir faire sa mammographie en début de cycle, pour les patientes qui ne sont pas encore ménopausées, ça peut être une des solutions. Après, c'est vrai que pourquoi on comprime les seins quand on fait une mammographie? On sait que plus on comprime, moins on irradie le sein. Donc c'est un facteur de qualité parce que d'abord on a une meilleure image et en plus on diminue la dose d'irradiation. Donc c'est vrai qu'on recommande en fait d'avoir une compression. Alors bien entendu, il ne faut pas en fait faire des excès de zèle. Alors peut-être qu'il y a eu un petit peu d'excès de zèle dans ce cas-là. Mais en pratique, il faut absolument en parler parce que peut-être qu'on pourrait comprimer un petit peu moins et que ce soit moins douloureux pour vous, car clairement, en fait, c'est un élément essentiel pour que vous reveniez nous voir.
Voilà, parce que, et j'ajoute que Nathalie n'est pas la seule. Il y a aussi Pascal, 56 ans, qui nous dit qu'elle ne se fait plus dépister parce que c'est très désagréable. Catherine Usan, voilà.
Eh bien, je pense que c'est important de travailler l'accueil. Et je pense que chacun dans nos structures, on y réfléchit, on y travaille. Le radiologue, c'est essentiel, mais les manipulateurs, les manipulatrices, parce que souvent c'est plus des femmes, manipulatrices radio sont essentielles. Moi, je sais quand une patiente est contente de son parcours à l'hôpital, alors sous couvert d'employer plein de guillemets pour dire contente de son parcours, c'est tous les gens qu'elle aura rencontrés, que ce soit de l'accueil initial, la manipulatrice qui l'a rassurée, qui lui a expliqué comment va se passer la biopsie, la radiologue. Donc, je pense que il y a à travailler sur cet accueil. C'est pas forcément des examens qui sont agréables, mais il y a un moyen de les rendre le moins désagréables possible et puis raccourcir les délais. Comme le disait Isabelle, chacun dans nos structures, on a organisé des accueils rapides qui permettent d'avoir des prélèvements, de pouvoir donner les résultats aux patients rapidement. Et lorsqu'il va y avoir, en fait, il faut, comme l'expliquait Isabelle, il y a des cas où on sait qu'on risque, quand on a un ACR5 par exemple, on sait que dans 80% des cas, on va trouver un cancer. Donc on a une imagerie qui est très suspecte, donc on va pouvoir commencer à préparer les patientes. Moi, quand je les vois le lundi à mon accueil sénologique, je leur dis systématiquement, quand je vais leur revoir le vendredi avec le résultat, venez accompagner pour essayer de les préparer, leur dire ce qui va se passer. Et lorsqu'on fait une annonce, puisque c'était la question que vous nous posiez tout à l'heure, l'annonce, ça prend du temps. Et l'annonce, ça se répète. C'est-à-dire qu'on sait qu'une fois qu'on va avoir vu les patientes, pour certaines, elles vont être, il va y avoir une sidération par cette annonce. Donc, on ne peut pas enchaîner sur tout expliquer. Il faut pouvoir revoir les patientes et notamment qu'il y ait d'autres soignants qui puissent les voir, comme nos infirmières d'annonce. Et ça, c'est une consultation très importante qui se fait quelques jours après, pas le même jour, pour avoir le temps que certaines choses aient été digérées et reprendre les explications sur ce que c'est, ce qu'on va faire et surtout tout ce qu'on peut mettre en place dès le départ pour que ce soit le mieux vécu. Et ça, c'est tout ce qui sont les soins de support.
Laure Garou-Colas, c'est essentiel cette...
C'est absolument essentiel parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'on parle du dépistage du cancer du sein, mais il y a de nombreuses formes de cancer du sein.
Et
finalement, ce qui se joue dans toutes ces consultations, c'est aussi de tout d'un coup, il se passe quelque chose pour moi. Et après, à travers les différents examens, on va expliquer et on va déterminer à travers, au-delà de l'imagerie, la biopsie, etc., finalement, quel est ce cancer et quel type de traitement va être proposé. Et ça, finalement, c'est quand même très compliqué. Et dans nos réseaux où on n'est que des patientes, il y a finalement des sortes de sous-groupes en fonction un peu de ces catégories. On n'a pas les mêmes traitements, les mêmes chirurgies, pas les mêmes séquences. Il y en a qui vont commencer par la chimio, d'autres qui vont commencer par la chirurgie. Donc, on a beaucoup de questions sur... En vrai, comment ça va se passer pour moi après. Donc, je pense que c'est vraiment important de effectivement réaliser que le dépistage n'est que le début d'une étape et que cette annonce, elle est effectivement avec beaucoup de séquences essentielles et qui sont de mieux en mieux structurées avec les différents soignants que vous évoquez, le médecin, l'infirmière d'annonce, etc. Et le temps à passer qui change tout pour que la personne se sente en confiance pour qu'on la soigne. Puisqu'on a la chance, quand c'est pris à temps, que ce soit une maladie qu'on peut guérir. Et pour les autres patientes, parce qu'il y a quand même 5% des patientes qui vont être d'emblée métastatiques, de pouvoir aussi comprendre quel type de maladie elles ont et qu'elles puissent être le mieux accompagnées possible pendant tout leur traitement.
On va maintenant s'intéresser aux causes de la maladie parce qu'on a un appel, celui de Lola qui est dans la Loire et qui a des questions à vous poser, mesdames. Bonsoir Lola.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, moi je vous appelais concernant les facteurs de risque en fait. Je voulais savoir s'il y avait un lien avéré entre la... j'ai perdu mon mot.
La pilule.
Oui, voilà, tout ce qui était pilules et traitements contraceptifs, voilà. S'il y avait un lien avéré, en fait, entre quelques sortes de cancers et les traitements hormonaux.
Merci beaucoup, Lola, pour cette question qui turlupine pas mal de monde. Catherine Usan.
Alors, il y a de multiples facteurs de risque de cancer du sein et les traitements hormonaux en font partie, mais avec des surrisques qui sont quand même très faibles. D'accord. Donc si, par exemple, pour ce qui est de la pilule globalement, d'accord, va augmenter sur toute la vie de 20% les risques, c'est-à-dire que si le risque d'une dame qui ne le prenait pas était de 1, eh bien le risque d'une femme qui prend la pilule va d'être de 1,2. Pour essayer, alors je sais que les chiffres, c'est pas facile à manier, mais on est sur un surrisque, mais un surrisque qui est très faible. Et ce surrisque va aussi dépendre de la durée de la prise de contraception. Donc le message qui doit bien être retenu, c'est surtout ne pas dire aux patientes « on arrête la contraception hormonale, elle donne le cancer du sein ». C'est de dire que la contraception a des avantages, d'accord ? La contraception va permettre d'éviter des grossesses non désirées, donc c'est très important. Hein. Pour chaque traitement, on est sur une balance bénéfice-risque. Mais il faut aussi s'interroger sur chaque patiente qu'on a en face de soi. Donc il faut voir quels sont ses facteurs de risque propres par ailleurs, et puis quelle durée de contraception on va prendre. Sinon, si on regarde la plupart des contraceptions, il n'y a pas une contraception. La plupart des contraceptions donnent à peu près le même type de risque.
Alors là, on a parlé du traitement des hormonales contraceptif, mais il y a aussi le traitement hormonal substitutif de la ménopause. Un petit mot à ce sujet, Catherine Usan. Là, il y aurait quand même un facteur de risque plus important?
Tout à fait. Alors, ça a été aussi bien identifié. Alors, on est souvent dans des mouvements de balancier. On a une époque où toutes les femmes prenaient le traitement hormonal substitutif pendant 20 ans, qu'elles aient des symptômes ou pas, pour tout le monde. Et puis, on est parti dans un grand mouvement inverse, qui est plus aucune femme qui prend le traitement. Et dès qu'on leur parle de traitement hormonal de la ménopause, elles ont des craintes. Ce qu'il faut bien dire pour rassurer les patientes, c'est que ce surrisque, là aussi, il existe, mais il est faible. Il va dépendre de votre histoire. Une femme qui a eu un cancer du sein ou une femme qui a eu des lésions atypiques du sein, c'est-à-dire qu'ils vont être plus à risque, on ne va pas lui recommander le traitement hormonal de la ménopause. Par contre, pour une femme qui a ce qu'on appelle les signes climatériques, c'est-à-dire des bouffées de chaleur important, sécheresse vaginale, sécheresse cutanée, c'est-à-dire des symptômes importants, eh bien le traitement hormonal de la ménopause à la plus petite dose possible, parce que ce traitement hormonal, c'est du sur-mesure. L'idée va être de le prendre sur les doses les plus faibles possibles et sur les durées les plus limitées possibles. On fait moins, maintenant on ne fait plus plus de 10 ans de traitement. Mais vous avez des femmes qui ont parfaitement bien compris ce qu'il en est, qui savent quel est le risque, mais qui vous disent, moi au quotidien, les bouffées de chaleur vont me gâcher la vie et le surrisque, il va être faible. Donc, encore une fois, on n'arrive pas à faire du blanc-noir, il faut faire adapter à chaque patiente et ça va derrière les questions de dire, est-ce qu'il ne faut pas adapter le dépistage au risque de chaque patiente, et c'est peut-être l'une des évolutions futures du dépistage.
Alors un mot justement peut-être de ce dépistage personnalisé, adapté à chacune en fonction de son profil. Isabelle Thomasin-Nagara.
Alors c'est vrai qu'il y a une vraie dynamique en fait à la fois aux États-Unis et en Europe, en fait avec des grandes études qui sont en train de se faire. Une étude qui s'appelle Wisdom aux États-Unis, une étude qui est portée par le docteur Suzette Delaloge à l'IGR qui s'appelle MyPEBS, dans lequel en fait il va y avoir plus de 80 000 femmes en fait qui vont être pour lesquelles on va proposer en fait ce type d'étude et qui va permettre de comparer le bénéfice en fait de faire un dépistage qui va être calculé en fonction du risque. Alors, comment on calcule ce risque? Il va y avoir, en fait, plusieurs évaluations. On va tester, en fait, en faire un test salivaire pour évaluer, en fait, s'il y a des gènes de susceptibilité. Et puis, on va également utiliser un modèle d'intelligence artificielle qui combine à la fois une histoire de la patiente, les facteurs de risque, les antécédents familiaux, le fait qu'on a eu des biopsies, et puis un critère, en fait, qui est un critère d'imagerie, qui est également un facteur de risque, mais qui est un facteur de risque également modéré, qui est la densité mammaire. Et donc, en combinant tous ces facteurs, on va dire à la patiente, bah, il faut moins dépister quand elles sont à très bas risque, que tous les 4 ans, par exemple, ou plus dépister tous les ans lorsque le risque est plus important. Et c'est une des pistes que l'on entrevoit pour justement aller vers cette personnalisation du dépistage.
On va peut-être poursuivre sur les facteurs de risque dans un instant, mais je voudrais qu'on prenne au téléphone Laurence, qui nous appelle du Pays Basque. Bonsoir Laurence.
Oui, bonsoir.
Alors vous, expliquez-nous, vous avez eu un cancer dépisté entre deux mammographies, c'est ça?
Voilà, donc en fait j'avais des mammographies régulièrement, tous les 2 ans. Et malheureusement, eh bien, j'ai déclenché un cancer à un stade déjà avancé, 18 mois après ma mammographie. Donc ma question c'était, bon voilà, quels sont les risques malgré tout de déclencher des cancers tout en étant dépisté régulièrement à travers ces mammographies.
Laurence, est-ce que je peux me permettre de vous demander si peut-être il y a il y avait des facteurs particuliers dans votre famille?
Non, si ce n'est que bon, j'avais des petits kystes assez régulièrement au niveau des seins, donc on avait choisi de me suivre de manière régulière, mais rien qui pouvait présager que ça pouvait évoluer en cancer. C'était uniquement des kystes.
Merci beaucoup pour cette question, Laurence. Isabelle Thomasin-Nagara, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à Laurence? Ça arrive,
alors,
ce genre
alors, de... Alors, Laurence, malheureusement, ça arrive, ah. C'est notre angoisse à tous. C'est ce qu'on appelle, en fait, un cancer de l'intervalle. Donc, c'est un des éléments sur lequel on évalue le dépistage, c'est-à-dire le dépistage est efficace, on veut avoir le moins possible de cancers dans l'intervalle, mais malheureusement ce chiffre n'est pas à zéro. Alors on sait qu'il y a des choses qui augmentent le risque de cancer d'intervalle quand justement la patiente a les seins qui sont très denses, et donc il y a des études actuellement qui voient si d'autres examens pourraient être effectués chez ces patientes qui ont des seins très denses, comme l'IRM. Et puis en fait, on sait aussi qu'il y a certains cancers qui malheureusement évoluent très vite, et que lorsque ça évolue très vite, on a beau en fait faire des dépistages le plus régulièrement possible, ce sont des lésions en fait qui apparaissent et qui vont se traduire par une anomalie clinique qui est d'évolution rapide. Et c'est vrai qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut absolument
être vigilant,
exactement, car l'imagerie ne fait pas tout, on l'a bien dit, l'examen clinique est extrêmement, extrêmement important, y compris l'autopalpation que peuvent se faire les patientes, parce que c'est aussi un des facteurs de dépistage qui est évidemment très utile dans ce genre de cas.
Un mot des facteurs de risque, puisqu'on nous dit que si on évite certains facteurs de risque sur lesquels on a effectivement un pouvoir, on peut prévenir la maladie, Catherine. Si vous deviez faire passer un message ce soir en ce sens.
Alors, on a des choses à faire. Alors, on ne va pas toutes devenir parfaites, c'est-à-dire qu'on ne va pas toutes éviter le surpoids, l'activité, faire de l'activité physique et arrêter de fumer, mais c'est quand même, et ne pas boire trop d'alcool, c'est quand même les messages essentiels et qui impactent sur le risque de cancer du sein. Donc, quand on dit de l'activité physique, j'aime bien parce que souvent les patientes me disent « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Donc là, c'est toujours une question un peu délicate. Mais l'objectif, c'est 2 heures d'activité par semaine. Peu importe l'activité que vous puissiez réaliser, quand les patients me disent « mais comment je fais et quelle activité ?» etc. Quelle que soit l'activité physique, pas juste de la marche, il faut au moins que ce soit de la marche active, 2 heures par semaine. Donc si vraiment vous savez pas comment faire, éventuellement le vélo d'appartement et vous regardez la télé en même temps, ou vous écoutez France Inter. Mais il y a des moyens, voilà, il y a des moyens de faire de l'activité physique 2 heures par semaine, ça doit être votre bonne résolution de l'année. éviter le surpoids. Et ça, c'est un élément important parce que le surpoids, ça joue aussi bien que ce soit en prévention primaire, c'est-à-dire pour éviter de faire un cancer du sein, mais aussi en prévention secondaire. Et ça, c'est important parce que maintenant, toutes les patientes chez qui on diagnostique un cancer et qui ont en surpoids, eh bien, on va pas juste leur dire « maintenant, débrouillez-vous ». On va les aider. Elles vont voir la diététicienne, elles vont voir si elles sont en obésité, la nutritionniste. On va leur recommander de faire du sport et si elles ne font pas de sport, on va leur proposer de rencontrer des coachs sportifs à l'hôpital. On a des associations pour ça. Donc l'idée, c'est on ne vous laisse pas seul avec ça, on va vous aider.
Je voudrais qu'on prenne Corinne pour terminer. Elle est à Rennes et elle a un message à nous faire passer à toutes. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
On vous écoute.
Moi, j'écoute votre émission depuis le début. Je suis concernée actuellement par un cancer du sein. J'ai 54 ans. Et depuis plus de 15 ans, j'ai également dans le sein des kystes et des boules régulièrement. Et les mammographies ne donnaient rien d'anormal, pas de cancer. Donc j'avais un peu pris cette habitude. Et quand j'ai reçu le dernier courrier m'invitant à faire une mammographie, j'ai failli ne pas y aller, comme ça peut arriver parfois, effectivement. Et au dernier moment, j'ai décidé d'être raisonnable en quelque sorte. J'y suis allée et heureusement, parce que cette fois-ci, ça n'était plus anodin, malheureusement. Donc le cancer a été pris tôt, j'ai été opérée, je n'ai pas besoin de chimio, tant mieux. Je n'ai pas eu besoin d'ablation non plus. Enfin, c'était les deux choses qui m'inquiétaient le plus, qui me choquaient le plus. Et je suis ravie d'avoir fait ça et je prends conscience de la chance qu'on a en France à notre époque et aussi d'être dans un pays où c'est possible. Donc ne pas louper ça, quoi.
Merci Corinne.
C'est trop grave.
Corinne, vous nous avez fait une magnifique conclusion.
Merci beaucoup Corinne.
À cette émission. Je crois qu'on pouvait pas rêver mieux. C'est même pas la peine d'en rajouter, hein, Catherine Usan. C'est exactement.
Merci beaucoup.
Ce qu'il fallait dire. Isabelle Thomas-Sanagara.
Merci.
Merci à vous, Laure Guérou-Acola. Merci beaucoup. Je précise qu'il y a beaucoup d'actions tout au long de la semaine voilà. Jusqu'à la fin du mois.
Hein. Chacune dans nos hôpitaux, nous avons nos journées Octobre Rose. Nous, c'est le 16 octobre.
Et nous, le 15 octobre.
Voilà. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Vous nous posez toutes les questions que vous voulez, on vous attend.
Voilà, et puis sur mon réseau Cancer du sein, on retrouve des événements dans toute la France, puisque les patientes sont un peu partout.
Et ben merci beaucoup à toutes les trois d'être venues ici ce soir pour en parler. Dans quelques instants, les infos de 20h, et puis ensuite, et bien, Julia Foyce, passons-en. Bonsoir Julia.
Bonsoir. MeToo, 2 ans après, est-ce que les représentations sur le viol ont changé? Comment vous dire? Pas vraiment.
Pas vraiment, on en parle évidemment tout à l'heure.